Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière le micro avec vous pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Vous dire d'abord qu'au Québec, il y a 50 % des adultes. Ça fait beaucoup, ça, 1 sur 2. Donc, c'est vous ou c'est moi qui ne connaissent aucun des signes qui permettent de détecter l'AVC et seulement 6 % reconnaissent les 3 signaux qui permettent de détecter un AVC. Donc, c'est un sondage qui a été fait tout récemment, donc en février dernier. Et vous avez sûrement pu le constater, c'est un pourcentage qui est beaucoup trop faible parce que dans les cas d'AVC, il y a vraiment une urgence et une importance d'agir rapidement, que ce soit pour la survie de la personne qui est touchée, mais aussi pour éviter les séquelles à long terme. Donc, suite à ce constat-là, la Fondation des maladies du cœur revient en force encore une fois cette année avec cette campagne qui s'intitule la campagne VITE. C'est une méthode, oui, de sensibilisation, mais aussi qui s'avère très simple, très efficace. Et nous, ben, on avait envie que vous soyez parmi les 50 % qui sont capables de déterminer les signaux de l'AVC. Donc, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on parlera avec Dr. Robert Côté, lui, neurologue à l'Hôpital général de Montréal. Aussi, vous soulignez, vous rappelez qu'il peut y avoir de très, très belles nouvelles, de bonnes nouvelles dans l'actualité. Hein? Ce n'est pas toujours de mauvaises nouvelles. Et pour preuve, lundi dernier, la Fondation Lucie et André Chagnon présentait un tout nouveau projet, celui de l'Observatoire des tout-petits, qui vise principalement à prévenir et aussi à réduire les inégalités chez les enfants, et ce, dès leur premier pas à la maternelle. On en parle dès maintenant avec sa directrice, Fanny Dagenais. Fanny Dagenais, bonjour.
Oui, bonjour.
Bien heureuse de vous retrouver. Cette fois-ci, un tout nouveau mandat, Fanny Dagenais. Vous étiez avant à la tête de l'organisme Équilibre. Donc oui, bouffée de fraîcheur parce que la nouvelle est réjouissante, mais en même temps, pour vous, ben, ce sont de nouveaux défis.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a lancé lundi dernier l'Observatoire des tout-petits qui a pour mission de placer les tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise. Et dans le fond, le mandat qu'on s'est donné, c'est de regrouper les données les plus rigoureuses qui concernent les enfants de 0 à 5 ans, de les analyser, mais surtout de les communiquer dans un langage accessible pour tous, et de créer des opportunités de dialogue autour de ces données pour mener à une prise de décision plus éclairée en matière de petite enfance au Québec.
Oui. Ce qui ressortait, je trouvais, de tout ce que j'ai pu lire depuis lundi, Fanny, c'est que, bon, évidemment, c'est une nouvelle qui est favorable pour les enfants, pour les familles ici au Québec, mais en même temps, ça semble très, très concret et également pour stimuler les décideurs à prendre des décisions favorables pour les familles et les enfants.
Oui, définitivement. Et d'ailleurs, on a publié un premier dossier thématique qui porte sur le développement des enfants à la maternelle qui révèle qu'un enfant sur 4 est vulnérable à la maternelle dans au moins un domaine de développement. Donc, ce que ça veut dire en langage clair, c'est qu'un enfant sur 4 est susceptible de ne pas être aussi outillé que les autres pour profiter pleinement de ce que l'école a à lui offrir.
Ce sont quoi ces domaines de développement?
En fait, on est parti pour cette donnée de l'enquête sur le développement des enfants à la maternelle qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec en 2012 et qui a été menée auprès de 65 000 enfants québécois. Et dans le cadre de cette enquête-là, on s'intéresse à 5 domaines de développement. Donc, il y a l'état de santé et de bien-être de l'enfant. On regarde également ses compétences sociales, ses habiletés de communication, ses capacités langagière et de mathématiques. Je crois que j'en ai oublié un. Donc, maturité affective également.
Okay.
Donc, voyez un peu là, le type de domaine de développement qui sont examinés dans le cadre de l'enquête. Et donc, un enfant sur 4 qui serait vulnérable dans au moins un de ces domaines. Et ce qui nous a particulièrement intéressés et même, je dirais, préoccupés, c'est l'écart important qu'il existe entre les enfants de milieux favorisés et ceux de milieux défavorisés. Donc, lorsqu'on regarde les enfants des milieux les plus défavorisés, on est à 1 enfant sur 3, alors qu'on est à 1 sur 5 dans les milieux les plus favorisés. Donc, on voit qu'il existe un écart assez important.
Oui. Et ce qui était frappant, moi, du moins, dans ce que j'ai pu observer, c'est par rapport à l'apprentissage des mots. Donc, à 3 ans, des enfants de famille moins nantis maîtrisent 3 fois moins de mots que des enfants issus de milieux plus favorisés.
Oui, exactement. Donc, on trouvait que cet exemple-là était très éloquent pour démontrer ce que ça peut vouloir dire, cet écart-là. Donc, effectivement, c'est une différence de 600 mots entre le nombre de mots connus des enfants de milieux favorisés et défavorisés à l'âge de 3 ans. Donc, c'est quand même une différence qui est assez marquante.
Oui, parce que c'est 1200 mots pour des familles de milieux plus favorisés et 400, on va le préciser, pour des familles moins nanties. Aussi, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que une maladie à la naissance ou un problème, ça a très peu d'impact après dans le développement de l'enfant.
Oui, exactement. Donc, des études démontrent que seulement 5 % des enfants ont une maladie ou un problème à la naissance qui limite leur développement futur. Et dans le fond, ce que ça nous indique, c'est que les milieux de vie dans lesquels vivent les enfants ont un effet déterminant. Et ce qui est également une très bonne nouvelle, c'est que les enfants les plus à risque sur le plan de leur développement sont aussi les plus réceptifs aux interventions et aux environnements stimulants. Et d'ailleurs, dans notre dossier thématique, on donnait l'exemple de la garderie et des maternelles 4 ans. Donc, il y a une étude qui a démontré que chez les enfants des milieux les plus défavorisés, le fait d'avoir fréquenté et la garderie et la maternelle 4 ans pouvait avoir un effet protecteur. Donc, on était à 23 % d'enfants vulnérables lorsqu'on avait accès à ces services-là, alors que chez les enfants des milieux les plus défavorisés qui n'avaient pas eu accès à ce type de service, la proportion passait de 23 % à 44 %. Donc, on voit qu'il y a vraiment des leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer la situation. Et ça, je dirais que c'est un peu la conclusion de notre dossier thématique, c'est que bien que la situation soit préoccupante, on a des leviers pour agir.
Oui. Et en même temps, il faut agir, Fanny Dagenais, parce que les problèmes de développement qu'un enfant entre 0 et 5 ans peut vivre, si on ne s'y attarde pas, ça peut avoir des impacts tout au long de son parcours et même une fois adulte.
Oui, absolument. Donc, il y a des études qui documentent justement que le fait d'avoir des difficultés à la maternelle rend l'enfant plus susceptible d'avoir des difficultés également lors de son école primaire. Et on pourrait même observer un effet domino jusqu'à l'âge adulte. Donc, dans le cadre de notre dossier thématique, on s'est intéressé à une étude qui démontrait un impact sur la réussite scolaire, ou plutôt le niveau d'études atteint à l'âge de 22 ans. Donc, on voit qu'il peut vraiment y avoir un effet domino et donc d'investir pour offrir un meilleur départ dans la vie à nos enfants, bien, c'est quelque chose qui peut être très payant sur le long terme.
Et en plus, en parlant d'investissement, je disais que si on ne met qu'un dollar, là, ça peut gonfler rapidement les investissements que l'on met dans le développement des petits.
Oui, effectivement, des chercheurs de l'Université de Harvard ont fait une analyse complexe qui a démontré qu'un dollar investi en vue de donner aux enfants un meilleur départ dans la vie présente un rendement de 4 à 9 $. Donc, pour des fois, on entend beaucoup parler, on est à l'ère un peu des restrictions budgétaires, on a des choix de société à faire et tout ça, mais même du côté économique, il est très, très intéressant, en fait, d'investir en nos enfants.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui expliquent pourquoi, Fanny, certaines régions, on y trouve des familles plus favorisées que dans d'autres régions? Ce n'est pas le cas.
En fait, les causes exactes, malheureusement, on n'a pas accès à ça via les enquêtes qui sont menées. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants sur le terrain qui travaillent très fort pour essayer de comprendre les causes derrière ces écarts qu'on observe entre les différentes régions du Québec. Oui. Et certainement, beaucoup d'intervenants également qui réfléchissent aux pistes de solutions possibles. Mais effectivement, comme vous le dites, on remarque que dans certaines régions, on peut observer des proportions d'enfants vulnérables plus élevées que la moyenne québécoise qui se situe autour de 26 %, alors que dans d'autres régions, on observe des proportions moins importantes.
Oui. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que, et vous me corrigez si je me trompe, bien sûr, Fanny, c'est que l'objectif premier de l'Observatoire, c'est pas tant de sortir des données, de faire des statistiques et tout, mais plutôt de véhiculer l'information. Comment vous comptez le faire auprès des familles, premièrement?
En fait, on souhaite vraiment publier ce type de dossier thématique comme celui que vous avez sous les yeux, d'ailleurs que les gens peuvent retrouver sur notre site internet toutpetit.org. Alors, c'est un premier dossier thématique, mais des dossiers comme celui-là, il y en aura bien d'autres. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire lumière sur différents enjeux qui touchent les enfants de 0-5 ans. On souhaite que ça puisse faire réfléchir les gens, que ça puisse susciter des dialogues pour qu'on puisse ensemble, collectivement, réfléchir à des pistes de solutions pour améliorer la situation. Et également, une fois par année, l'Observatoire des tout-petits produira son portrait annuel des tout-petits Québécois. Alors, ce sera vraiment une vue d'ensemble sur nos tout-petits au Québec. Et le premier portrait de ce type sera publié en novembre prochain.
Mais il faut que ça demeure concret, compréhensible. Je reviens aux parents, aux familles, aux gens qui sont pris dans un quotidien avec des responsabilités, des inquiétudes. Il faut que l'information se rende aisément vers eux.
Oui, absolument. Et c'est dans cette optique-là que l'Observatoire crée des dossiers qui sont vraiment sous forme imagée, comme le présent dossier est fait sous la forme d'une infographie, dans un langage clair pour que la plupart des acteurs de notre société puissent comprendre ça et que ça nous aide à prendre des meilleures décisions là, pour l'avenir de nos tout-petits.
On peut s'attendre à quoi pour les prochains projets thématiques? Est-ce qu'il y a déjà des dossiers, des sujets sur la table?
Bien, il y a déjà des thèmes qui ont été émis, mais rien de confirmé. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que dès le 26 mai prochain, on organisera un événement de dialogue qui réunira différents acteurs de la société. Donc, on souhaiterait bien avoir dans la salle des représentants de citoyens, des représentants des municipalités, des décideurs à tous les niveaux. On souhaiterait avoir des gens du milieu des affaires, des intervenants terrain, pour réagir un peu à ce premier dossier thématique, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que société québécoise pour améliorer cette situation. Et le fruit des échanges sera certainement communiqué là, dans les médias notamment.
Et ce sera un premier événement de ce genre?
Oui, absolument. Donc, un premier événement de dialogue pour l'Observatoire.
Le 26 mai.
Oui.
Je veux également aller, parce que c'est revenu souvent dans les communiqués qu'on a pu lire depuis lundi sur l'Observatoire des tout-petits, sur la façon d'influencer favorablement les décideurs. Comment l'Observatoire compte y prendre, d'une part, mais en même temps, qu'est-ce que ça pourrait être l'impact de ces nouvelles politiques pour les familles et les enfants ici au Québec?
Mais c'est certain que pour accorder de l'importance à une question, il faut être sensibilisé. C'est un peu le point de départ. Et en ce moment, ce qu'on notait, c'est que, oui, bien sûr, on avait des données sur les enfants de 0-5 ans, mais elles étaient dispersées dans différentes enquêtes. Oui. Et dans le fond, ce que va faire l'Observatoire, c'est de les regrouper pour qu'on puisse avoir un portrait global de la situation. Et ce qu'on souhaite, c'est que les décideurs puissent en prendre connaissance, d'où nos différentes actions de communication, et qu'avec les acteurs d'influence qui sont sur le terrain, les gens qui ont des compétences particulières selon l'enjeu là, qu'on soulèvera, donc qu'il puisse y avoir des discussions collectives autour de ces enjeux qui touchent les 0-5 ans en vue de mener à des prises de décision plus éclairées.
Oui, que ça devienne un petit peu un projet collectif pour toute la société de supporter nos tout-petits.
Oui, exactement. Et ça revient un peu à l'énoncé de mission de l'Observatoire là, que j'ai présenté au tout début, qui est de placer les tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise. Donc, c'est vraiment ultimement ce à quoi on veut en arriver parce que, dans le fond, les tout-petits, hein, c'est les Québécois de demain. Oui. Alors, il faut s'assurer qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se développer à leur plein potentiel.
Mais en tout cas, Fanny Dagenais, on vous souhaite de grands succès dans ces nouvelles fonctions. Un beau et grand défi qui semble extrêmement serviable, extrêmement utile et positif. C'est vraiment un plaisir d'entendre cette nouvelle, celle de l'Observatoire des tout-petits.
Merci beaucoup.
Merci Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits, toutpetit-petit.org. Merci.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Et c'est maintenant le temps de vous parler de cette campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC, campagne menée par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, avec le Dr Robert Côté, lui, neurologue, à l'Hôpital général de Montréal. Bonjour, Dr Côté.
Bonjour.
On s'était parlé il n'y a pas si longtemps, en novembre dernier, la mère d'une amie venait de subir un AVC et ça m'avait beaucoup interpellée. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle dans notre discussion, Dr Côté, c'est ces chiffres qui sont assez troublant de savoir que 50 % des Québécois ne savent pas reconnaître les signes de l'AVC.
Oui, évidemment, ça fait plusieurs années que la Fondation des maladies du cœur procède à des enquêtes au niveau du public afin de sensibiliser le public aux symptômes de l'AVC. L'AVC était en général jusqu'à récemment beaucoup moins connu, évidemment, là, comme présentation que la maladie cardiaque, par exemple. Mm-hmm. Alors, ce qui est important pour la Fondation, c'est d'évaluer, évidemment, le niveau de connaissance dans le public pour ce qui est des symptômes de l'AVC. Et la raison de ça, c'est que, contrairement à il y a, je vous dirais, peut-être une dizaine d'années, on a maintenant des traitements pour l'accident vasculaire cérébral aigu qu'on n'avait pas à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'est important, évidemment, de vérifier le niveau de connaissance au niveau du public des principaux symptômes là, de l'AVC afin que les gens puissent être référés de façon adéquate et appropriée à leur médecin ou aux urgences les plus proches là, s'il s'agit d'un problème aigu. Là.
Mais parce que c'est une façon aussi d'éviter des séquelles.
Évidemment. En fait, l'accident vasculaire cérébral, il y en a deux grands types. On a le type qu'on appelle ischémique, qui est dû à un caillot, alors un blocage d'une artère où les cellules cérébrales vont mourir par manque d'afflux sanguin. Mais il y a également le type d'AVC hémorragique, qui est plutôt dû à une rupture d'un vaisseau. Alors, il s'agit d'une hémorragie intracérébrale. Alors, c'est les deux grands types. Et évidemment, selon le lieu où le vaisseau va être bloqué ou rupturé, il va avoir de certaines cellules du cerveau. Et évidemment, si ce sont les cellules qui s'occupent du langage, ben, on va avoir des problèmes de langage. Si ce sont les cellules qui s'occupent de la motricité, ben, il va avoir une faiblesse. La vision, il va avoir une perte de vision. Alors, on peut deviner que dépendant de la partie du cerveau qui sera affectée par l'AVC, il pourra y avoir différents types de symptômes. Et souvent, les symptômes, si le traitement n'est pas fait à temps, les symptômes peuvent être permanents. Alors, il s'agit là, d'incapacité là, au niveau de la communication visuelle ou motrice.
Quels sont-ils, ces traitements-là, Dr Côté?
Il y a deux grands types de traitements là, depuis quelques années là, qui ont été validés là, dans la littérature. Un premier traitement, c'est un traitement intraveineux que l'on donne. Dans les deux cas, il s'agit des AVC ischémiques, qui sont des AVC dus à un caillot cérébral. Et c'est le type d'AVC, évidemment, qui est le plus fréquent. Alors, plus de 80-85% des AVC sont de ce type-là. Et on a deux interventions aiguës. La première, c'est une injection intraveineuse d'un médicament qui s'appelle le TPA, qui est un médicament qui aide à dissoudre le caillot. Et en général, le patient, par ailleurs, doit être traité de façon assez urgente, en général, environ dans les premières 4 heures du début des symptômes.
Okay.
Alors, vous pouvez vous imaginer qu'entre le début des symptômes et le traitement, au maximum, il faut que ce soit 4 heures et de préférence, beaucoup moins que 4 heures.
Alors,
on peut voir là,
vite,
qu'il y a un effet chronodépendant. Là, il faut que les gens reconnaissent les symptômes si on veut les amener à un traitement adéquat.
Il y a beaucoup de neurones aussi qui peuvent disparaître.
Alors, on a évalué, grosso modo, c'est impossible là, d'avoir des chiffres exacts, mais on sait qu'on peut perdre environ autour de 2 millions de cellules cérébrales par minute lorsque le flot est interrompu. Et la deuxième intervention, à part le traitement intraveineux là, pour dissoudre le caillot, c'est ce qu'on appelle une thrombectomie. Alors là, à ce moment-là, le radiologiste va naviguer un cathéter au niveau des artères jusqu'au niveau du cerveau où il y a le blocage et on va aspirer et déloger le caillot afin de l'extraire de façon mécanique au lieu d'une façon chimique là, avec le premier traitement dont je vous ai parlé. Puis ces méthodes-là sont très efficaces. On a des patients, en fait, qui se présentent avec des paralysies complètes et perdent de la parole et qui, suite à ces traitements-là, à l'intérieur de quelques heures, peuvent recouvrir complètement leur capacité normale. Alors, il s'agit de traitements, jusqu'à un certain point, révolutionnaires au niveau neurologique parce que on n'avait pas accès à ces interventions-là auparavant. Et vous pouvez vous imaginer que parce que ces interventions-là doivent être faites très rapidement, eh bien, c'est important que le public et les gens qui sont à risque puissent reconnaître les signes le plus tôt possible pour pouvoir consulter.
Et la méthode VITE, c'est une méthode qui est toute simple, efficace, qui a été, je pense, approuvée, qui a été testée un petit peu partout, là.
Un peu partout dans le monde, ouais. En Amérique du Nord surtout, alors aux États-Unis, au Canada, au Québec. Et il s'agit d'un acronyme assez simple, VITE, pour visage, le visage est-il affaissé. Alors souvent, les patients avec qui vont présenter un AVC vont avoir une asymétrie au niveau du visage. Alors un côté du visage va tomber un peu. Incapacité pour le I. Est-ce que le patient peut lever les deux bras normalement? En général, un des bras va être faible. Alors, il y aura une faiblesse d'un côté et non de l'autre. Mm-hmm. T, c'est pour le trouble de la parole. Alors, les gens vont avoir soit des troubles de la prononciation ou soit qu'ils ne pourront dire ou ne pourront parler ou dire des mots. Alors, ils vont chercher leurs mots ou ils vont mal les prononcer. Et le E, c'est pour extrême urgence. Ben, ça rejoint ce qu'on vient de dire,
ben
c'est
oui.
que les traitements disponibles sont des traitements qui doivent être donnés à l'intérieur de 4 à 6 heures ou plus tard.
Mm-hmm. Est-ce que ça peut être efficace pour le trouble de la parole, de poser des questions à une personne dont on soupçonne de vivre un AVC?
Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur demander quelques petites simples commandes, comme on dit. Alors, on peut demander, si on soupçonne un AVC, on peut demander à la personne, ferme tes yeux, fais un point avec ta main droite, lève ton bras gauche. Alors, on peut demander quelques petites questions simples comme ça. Et si la personne ne peut pas faire ces choses-là, on peut déduire de ça qu'il y a possiblement un problème de la parole ou du langage.
Mm-hmm. Maintenant, Dr Côté, est-ce que toutes les personnes qui vivent un épisode d'AVC vont avoir le même type de symptômes? Est-ce que ça se retrouve de la même façon chez tout le monde, hommes, femmes, selon l'âge également?
Oui, en général, la présentation n'est pas spécifique en termes de masculin, féminin ou en termes d'âge.
Okay.
Ça va dépendre évidemment, comme je disais tout à l'heure, de la partie du cerveau qui va être affectée.
Ah, oui.
On sait aussi que chez les gens plus âgés, alors les gens peut-être là de au-dessus de 80 ans là, qui vont présenter des AVC, souvent les AVC sont très sévères parce qu'ils sont dus à des causes associées à des problèmes cardiaques. Et en général, les caillots sont un petit peu plus gros. Alors, il y a plus de blocage au niveau cérébral. Alors, des AVC vont être plus sévères avec l'âge, disons, en général. Mais pour ce qui est du sexe, il n'y a pas vraiment de différence là, dans la présentation clinique là, des symptômes.
Mm-hmm. Maintenant, avant de se quitter, je veux qu'on parle des facteurs de risque. Qui est susceptible de vivre un AVC?
Oui, ça, c'est extrêmement important. Parce que les gens qui sont le plus à risque de faire un accident vasculaire cérébral, évidemment, l'âge, c'est un des facteurs le plus important, mais on peut malheureusement pas encore changer le vieillissement. Mais les facteurs de risque qui sont modifiables, c'est l'hypertension. Tension artérielle. Alors, la tension artérielle élevée est un facteur de risque le plus important modifiable pour l'AVC. La présence de maladies comme le diabète est un facteur de risque qui augmente. Les problèmes de cholestérol élevé augmentent le risque. Les patients qui présentent des problèmes cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, ce sont des patients qui présentent un risque accru. Et aussi, au niveau des habitudes de vie, les gens qui fument, les gens qui sont obèses, qui sont pas actifs physiquement, sont beaucoup plus à risque là, de l'AVC.
Donc, j'imagine que de changer nos habitudes de vie, c'est vraiment une bonne clé pour tenter d'éloigner un épisode d'accident AVC. Là.
C'est certainement une bonne façon de diminuer le risque. Et en association avec le contrôle des facteurs de risque, les changements d'habitude de vie, là, pour le mieux, ça va diminuer de façon significative les risques d'AVC, effectivement.
Oui, parce que quand même, au Canada, c'est tous les 10 minutes qu'une personne est touchée par un accident vasculaire cérébral. Ce que les chiffres nous disent également, c'est que 80 % des victimes vont s'en sortir, mais en même temps, il y a des séquelles aussi pour certaines personnes.
Exactement. Puis dans certains cas, évidemment, il y a une perte d'autonomie hein, qui survient. Alors, entre évidemment, comme être humain, notre autonomie, c'est extrêmement important.
Oui. Une toute dernière question qui stimule ma curiosité. On a déjà entendu parler de gens qui se réveillent la nuit et la vision a changé, il y a un petit changement dans leur équilibre et ils vont voir un médecin, ils apprennent qu'ils ont fait un AVC, mais ça s'est passé dans leur sommeil. Est-ce que c'est une légende urbaine ou ça peut vraiment arriver de faire un accident vasculaire cérébral qui soit peut-être petit et qu'on s'en rende pas vraiment compte?
Non, c'est pas une légende urbaine du tout.
Okay.
On dort le tiers de notre vie.
Oui.
Mais le flux sanguin, le cœur, le cerveau, nos organes fonctionnent. Alors, les caillots peuvent se former autant le jour que la nuit. Alors, effectivement, beaucoup de patients, un nombre substantiel de patients, vont avoir leur AVC au réveil le matin. Déjà, au réveil, auront une paralysie ou une perte de parole.
Okay.
Alors, c'est quelque chose qui est très réel, ça. Ça peut survenir très bien durant la nuit.
Et à ce moment-là, ben, bon, y aura peut-être des séquelles, mais du moins, c'est plus difficile d'appliquer la méthode vite. Hein?
Oui, c'est un petit peu plus difficile dans ces cas-là. En fait, les cas au réveil, c'est les cas un peu plus problématiques, je vous dirais, en termes de traitement.
Bien, Dr Côté, je trouve que la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC est bien chanceuse de vous avoir parce que vous êtes un excellent vulgarisateur. Je rappelle, vous êtes neurologue à l'Hôpital général de Montréal. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous, servant.
Bonjour.
C'était Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres au cours de la semaine. La semaine prochaine, défi sportif Altergo, un événement que je chéris, que j'adore. On y sera d'ailleurs lundi en AM du côté du centre Claude Robillard, mais également on abordera des sujets liés au sport, aux jeunes qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles et aux saines habitudes de vie pendant toute la semaine. Soyez des nôtres. Et ce, dès lundi, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.